Il est 9h sur France Culture. Les informations sont présentées par Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour à toutes et à tous. Saad Hariri est arrivé en France il y a un peu plus d'une heure et demie. Le Premier ministre démissionnaire du Liban sera reçu à midi par Emmanuel Macron, à qui il doit d'avoir pu quitter l'Arabie Saoudite où il avait annoncé sa démission il y a 2 semaines. Ce coup de théâtre, on s'en souvient, avait plongé le Moyen-Orient dans l'incertitude entre ingérence saoudienne et prise d'influence grandissante de l'Iran. Saad Hariri est donc à Paris pour le moment. Il pourrait retourner à Beyrouth dans les jours ou les semaines qui viennent, selon le président français. Mais qu'en disent les Libanais? C'est un reportage de notre correspondant à Beyrouth, Omar Waman.
L'arrivée de Saad Hariri en France a redonné espoir à des millions de Libanais. Joseph, un professeur de mathématiques.
C'est un soulagement. Il a été libéré de l'Arabie Saoudite. C'est une étape importante, mais nous serons véritablement satisfaits quand nous le verrons au Liban. Et peut-être même qu'il ne démissionnera pas. En ce qui me concerne, je ne veux pas qu'il démissionne, car tout allait bien avant.
D'autres, comme Michel, un chef d'entreprise, saluent l'action de la France qui s'est très vite impliquée pour éviter que la situation ne dégénère.
C'est la première fois qu'on sent que la France est de nouveau retournée au Liban. Aujourd'hui, les Libanais sentent que la France est de nouveau leur recours, leur support plus ou moins. Et ce n'était pas le cas durant les 2 ex-présidents. Alors oui, maintenant, c'est une très bonne action française. Je dis merci.
Mais cet épisode saoudien rappelle surtout aux Libanais que leur pays n'est pas maître de son destin. Louisa, une architecte.
Ça prouve que le Liban n'est plus indépendant. Ça veut dire qu'on est en train de jouer avec ce pays et ce peuple. C'est infernal. Infernal pour le peuple libanais. Je parle au nom de tous les Libanais. Hein. Laissez-nous tranquilles.
Cette exaspération est partagée par une grande partie de la population qui rêve de stabilité durable.
Omar Waman à Beyrouth pour France Culture. Le New York Times conteste le bilan civil des frappes aériennes anti-Daesh en Irak, selon les journalistes du quotidien américain qui ont enquêté sur le terrain pendant plus d'un an. Le nombre de victimes collatérales, quelques centaines selon le Pentagone, a été largement sous-estimé. Une frappe de la coalition sur 5 aurait fait des morts, selon les témoignages recueillis. C'est 31 fois plus que ce que reconnaissent les états-majors. La menace d'un retour forcé en Espagne se précise pour le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont. Hier, le parquet bruxellois a requis la mise en œuvre du mandat d'arrêt européen lancé contre lui par Madrid. La décision ou non de l'extrader sera prise début décembre. En attendant, Carles Puigdemont reste libre à Bruxelles. Ce n'est pas encore cette année que le monde se montrera à la hauteur de l'urgence climatique. À la COP23 à Bonn, les discussions se sont terminées la nuit dernière sur un nouveau report des engagements concrets. Tout est donc remis à la COP24 l'an prochain en Pologne. Les précisions depuis Bonn de notre envoyé spécial Véronique Robérotte.
Il y a les vibrants appels à agir qui contrastent de plus en plus avec la lenteur des négociations onusiennes. Certes, Bonn était une COP de transition, mais la volonté politique de faire plus pour sauver le climat n'était pas là. Maxime Combes, économiste à l'association ATTAC.
À l'alerte des scientifiques qui se fait toujours plus forte et aux catastrophes climatiques qui se font toujours plus présentes, nous n'avons pas de sursaut politique lors de cette COP23. Nous avons une négociation qui suit son cours, qui doit aboutir en 2018. Et donc nous appelons à ce qu'il y ait effectivement des politiques climatiques qui soient revues à la hausse pour 2018. Cette bataille n'est pas perdue. Par exemple, la France serait bien intentionnée, à l'occasion du sommet du 12 décembre qui va être organisé à Paris, de définitivement stopper tout financement pour les énergies du passé, fossiles ou fissiles, et que plus un euro n'aille à ce qui contribue à alimenter le réchauffement climatique.
Pas d'annonce des pays pollueurs sur une hausse de leurs ambitions climatiques. Ce sera pour 2018, tout comme la concrétisation de promesses financières pour aider les pays les plus pauvres. Résigné, c'est Nina Faux à la tête du groupe Afrique.
Le financement n'avance pas du tout. Sur les 100 milliards, nous attendons toujours que les pays développés puissent produire. On est déjà presque en 2020. Une feuille de route précise, quantitative, ce n'est pas encore le cas. Les règles de comptabilité n'ont pas été adoptées sur la mobilisation de ces financements. Nous attendons.
Le sommet climat du 12 décembre prochain à Paris portera en partie sur ce volet financier.
Véronique Robérotte, La République En Marche tient aujourd'hui son premier conseil national. Ça se passe à Lyon avec la désignation du bureau exécutif et du numéro 1 du parti présidentiel, Christophe Castaner. Tout cela devrait se faire sans grosse surprise car tout a été savamment verrouillé par l'entourage d'Emmanuel Macron. Pas de surprise à attendre, mais des voix dissonantes qui devraient s'exprimer dénonçant le manque de démocratie militante dans la jeune formation politique. La traque policière avait duré 5 jours en novembre 2013. Abdelhakim Dekar, l'homme qui avait attaqué à l'époque une banque à la Défense ainsi que les locaux de BFM TV et de Libération où un photographe a été grièvement blessé. Abdelhakim Dekar est jugé depuis hier aux assises de Paris pour tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration. C'est la deuxième fois que l'homme de 52 ans est jugé aux assises. Il avait été condamné en 98 dans un dossier criminel lié au milieu de l'ultra-gauche. Et hier, la première journée d'audience s'est concentrée sur la personnalité complexe de l'accusé, Florence Turme.
Abdelhakim Dekar se définit comme un intellectuel, un combattant de l'injustice sociale et il intellectualise tout, y compris ses réponses sur les faits qui lui sont reprochés. J'ai commis quelque chose d'irréparable, je le reconnais, il y a eu une tragédie, mais je n'ai jamais voulu m'en prendre à la personne humaine. Mon but, poursuit-il, c'était le suicide et plutôt que de m'immoler de manière anonyme, je voulais scénariser ce suicide, donner à mes enfants l'image d'une mort romantique. L'avocat de César Sébastien, l'assistant photographe grièvement blessé à Libération, tente de le ramener sur un terrain plus concret et vous considérez que César Sébastien a également subi une injustice. Ce qui est arrivé, je ne l'ai pas souhaité, reprend Abdelhakim Dekar. Oui, il a aussi subi une injustice grave. Les gens souffrent, reprend l'accusé, de l'atomisation de l'individu et certains commettent l'irréparable. Il évoque une succession de malchances pour expliquer sa désespérance insoutenable, un divorce douloureux, le décès de son frère, mort d'une tumeur mais dont il pense qu'il a été assassiné. Et lorsque l'avocat général l'interroge sur des épisodes de violence familiale, il réplique « Je suis profondément blessé par ce genre d'accusation ». Abdelhakim Dekar se rassied sans que l'on ait pu cerner au terme de cette première journée les motivations claires de ses actes pour lesquels il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Et le procès doit durer toute la semaine prochaine. Un mot de la météo enfin dominé par la grisaille au nord après dissipation des brouillards sur la Garonne, la Bretagne et la Normandie. Les éclaircies sont plus franches au sud et le thermomètre dépasse difficilement les 5 degrés ce matin, des températures maximales qui ne vont pas beaucoup plus grimper, entre 4 et 12 en général, jusqu'à 16 autour de la Méditerranée. Les journaux de cette matinée étaient réalisés par Emmanuel Faucillon. Vous retrouverez Anne Fauquemberg pour l'édition de la mi-journée.